Dans le monde complexe de la médecine vétérinaire, chaque jour apporte son lot de questionnements, de décisions importantes et de responsabilités professionnelles. L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec propose donc ce balado pour vous accompagner, vous informer et partager avec vous des projets inspirants. Avec des interventions de professionnels variés, des initiatives du terrain et des conseils concrets, nous plongerons au cœur de la profession. C'est à écouter PRN et renouveler aussi souvent que nécessaire.
Bonjour et bienvenue au balado à écouter PRN, donc le balado de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Je suis Patricia Noël, directrice des communications et du système d'information à l'Ordre. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour aborder un sujet qui est très présent là, en médecine vétérinaire, évidemment, mais aussi dans toutes les professions. Évidemment, qu'on soit avocat, notaire, infirmière ou médecin, bien, il faut respecter notre obligation de secret professionnel. Et bien que les médecins vétérinaires, on sait qu'ils ont une bonne compréhension générale de leur obligation par rapport au secret professionnel. On voulait quand même en discuter parce qu'on a souvent des petites questions sur des situations qui sont plus spécifiques. Donc, l'objectif aujourd'hui, là, évidemment, là, c'est de comprendre c'est quoi le secret professionnel, à quoi il sert, puis aussi discuter de différentes mises en situation qui sont plus concrètes, là, puis qui vont plus parler aux médecins vétérinaires là, pour qu'ils puissent vraiment l'appliquer encore mieux puis le comprendre encore mieux dans l'exercice de leur fonction. Donc, pour faire tout ça, j'ai invité la docteure Danielle Beaulieu, qui est directrice du service d'amélioration de l'exercice, pour qu'on puisse aborder ensemble le sujet en profondeur. Alors, bonjour Danielle.
Hey, bonjour Patricia, puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être là. Je trouve qu'un balado, c'est quand même une tribune qui est tout indiquée pour rappeler l'importance du secret professionnel là, et les obligations des professionnels en la matière.
Merci Danielle. Donc, je propose qu'on embarque tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que c'est possible pour vous de simplement commencer par nous expliquer c'est quoi le secret professionnel, en quoi il consiste, puis pourquoi il est si important?
Oui, bien, comme tu disais en introduction, Patricia, je pense que tout le monde le sait à peu près instinctivement, c'est quoi le secret professionnel. Mais en bref, ce que je peux dire, c'est que d'abord, c'est que c'est une notion qui est prévue au Code des professions. Donc, c'est le devoir de tout professionnel de respecter le secret des renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l'exercice de sa profession. Donc, on ne parle pas ici de quelqu'un que vous rencontrez sur un terrain de soccer puis qui vous raconte sa vie, là. On parle vraiment de ce qui se passe dans le cadre de votre travail. Et c'est une obligation pour toutes les personnes qui font partie d'un ordre professionnel au Québec, donc incluant les médecins vétérinaires. Alors, comme tu disais encore une fois, c'est la même chose pour les avocats, pour les infirmières, pour les médecins, etc. Et on dit que c'est un fondement du système professionnel et même un fondement de notre société. Donc, on sait c'est quoi le secret professionnel, mais ce qui est des fois un petit peu plus difficile à comprendre, puis même parfois difficile à accepter, c'est le pourquoi de cette obligation-là. Donc, en fait, le secret professionnel, ça a été établi de façon à permettre à une personne, donc un client ou un patient pour certaines professions, de s'ouvrir complètement au professionnel dans une situation où elle a besoin d'aide. Donc, cette personne-là, en étant assurée du secret professionnel, qu'elle est protégée par le secret professionnel, va pouvoir donner à son professionnel tous les éléments d'information qui va lui permettre de lui offrir des services de qualité et complets. Donc, ça sert à établir un lien de confiance dans la relation. Ça permet au professionnel d'agir efficacement. Donc, à la base, le secret professionnel, il faut le voir vraiment comme un outil qui permet au professionnel d'offrir le meilleur service possible en obtenant toutes les informations nécessaires.
Merveilleux. Daniel, donc, on comprend là, que ça permet vraiment au professionnel d'aller au fond des choses, d'avoir toute l'information pour pouvoir rendre le meilleur service possible. C'est super qu'on comprend le fondement général. Comment ça s'exprime là, de façon plus précise là, en médecine vétérinaire?
Oui, bien, au niveau de la médecine vétérinaire, là, on va se tourner plus précisément vers le Code de déontologie des médecins vétérinaires. Là, je vais te donner des articles du Code, mais pas besoin de retenir ça. Là, c'est simplement un titre d'information. Donc, au niveau du Code de déontologie, il y a deux aspects sur lesquels je voudrais attirer l'attention. Premièrement, l'article 23 qui dit que le médecin vétérinaire doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession et de s'assurer d'exercer dans des lieux favorisant la discrétion et le maintien du secret professionnel. On s'entend, On ne parle pas de sujets confidentiels dans salle d'attente. On n'en parle pas non plus en plein milieu d'une pension pour chevaux devant tout le monde. Là, il faut avoir un endroit qui assure la confidentialité. L'autre aspect qui est intéressant à mentionner, c'est l'article 25 qui dit que le médecin vétérinaire doit également veiller à ce que le personnel qui l'entoure et toute personne qui collabore avec lui dans l'exercice de ses activités professionnelles ne révèle pas les renseignements de nature confidentielle obtenus dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, le secret professionnel, on disait au début que ça s'applique à tous les professionnels, à tous les membres d'un ordre professionnel. Mais dans le cas, la plupart des professions, mais précisément pour les vétérinaires, ce sont toutes les personnes qui travaillent avec nous qui ont la même obligation de garder le secret professionnel. Et c'est la responsabilité du médecin vétérinaire de s'assurer que les gens avec qui il travaille le respectent. Donc, bien informer nos employés sur nos responsabilités. Accessoirement, la confidentialité est aussi mentionnée dans le règlement sur les effets et les cabinets de consultation des médecins vétérinaires, où il est répété là, qu'il faut que le cabinet de consultation soit aménagé de façon à ce que l'identité et les conversations des personnes qui se trouvent ne puissent pas être perçues de l'extérieur. Donc, tout ça, le but ultime, c'est que le client puisse avoir confiance en la discrétion de son médecin vétérinaire lorsqu'il relate les faits reliés à sa situation. C'est une question de confiance mutuelle. Faut comprendre, faut se mettre dans la situation de ces clients-là. Il y a des situations qui peuvent être un peu gênantes. Je vous donne quelques exemples comme ça. Donc, l'animal du client qui a été frappé par une voiture parce qu'il n'était pas surveillé, ou encore pire, j'y vais en gradation, l'animal a englouti une substance illicite qui avait été laissée par inadvertance sur la table à dîner, ou malheureusement, l'animal qui a été violenté. Donc, le client, il pourrait avoir peur d'être jugé si ces faits-là étaient rendus publics ou avoir peur de conséquences légales. Mais on veut pas qu'il se taise. On veut qu'il nous le dise parce que c'est important que le médecin vétérinaire dispose de toutes les informations pour pouvoir proposer un plan de soins adapté à la situation de l'animal. Si on sait pas qu'est-ce qu'il a mangé, ça va être difficile de le traiter. Donc, il faut vraiment que le client puisse nous le dire sans avoir peur.
Merci, Daniel. Bon, ça met en perspective toutes sortes de situations, effectivement, qui pourrait être un peu embêtant pour un client. Donc, c'est intéressant. Puis aussi, ce que moi, je retiens beaucoup de ce que tu as dit, c'est tout le volet de bien s'assurer que son personnel ou l'équipe avec laquelle on travaille doit respecter aussi l'obligation du médecin vétérinaire, donc de ça au sein de son équipe, là. Donc, c'est important de savoir que ça s'applique à l'ensemble du personnel de l'équipe.
Oui, tout à fait.
On comprend que ces situations-là sont particulières puis qui peuvent être embêtantes. On comprend l'intérêt du secret professionnel, mais est-ce que ça s'applique aussi à des consultations de routine où il n'y aurait pas de situation embêtante ou quoi que ce soit?
Oui, tout à fait. Ça, cette partie-là n'est pas laissée à notre jugement. On n'adapte pas le secret professionnel à la situation qui est devant nous. Le secret professionnel, c'est en tout temps. Donc, tout échange verbal ou écrit de renseignements entre le client et le médecin vétérinaire dans le cadre de l'exercice de la profession est protégé par le secret professionnel. C'est la même chose d'ailleurs pour le dossier médical. Hein. Les informations qu'on y consigne sont également soumises au secret professionnel.
Maintenant qu'on comprend mieux l'application du secret professionnel, son intérêt et tout, eh bien, évidemment, il y a sûrement des exceptions là, dans tout ça. On le sait, là, il y a des moments où est-ce qu'on peut lever le secret professionnel. Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu de ces cas de figure-là?
Oui, tout à fait, Patricia. Il y a deux catégories de situations qui permettent aux médecins vétérinaires de divulguer de l'information qui serait autrement protégé par le secret professionnel. Donc, la première catégorie, c'est le consentement libre et éclairé du client. Donc, c'est le client qui renonce au secret professionnel. Donc, je vous donne des exemples. Par exemple, un client qui demande que le dossier médical de son animal soit transmis à un autre médecin vétérinaire, à un assureur ou au futur acheteur de son animal. Donc, ce client-là a renoncé au secret professionnel en faveur de cette personne. Ça pourrait être aussi un producteur agricole qui demande que des résultats soient partagés avec son agronome. Donc, il renonce au secret professionnel au bénéfice de cette personne. L'autre catégorie, c'est si une disposition de la loi lui permet de divulguer certaines informations sans la permission de son client. Donc, autrement, le secret, si on ne rentre pas dans une de ces catégories-là, le secret professionnel demeure de mise.
J'imagine, là, Daniel, que tout ça se rattache au code de déonto ou à des textes de loi là, qui viennent vraiment définir ces exceptions-là. Est-ce que c'est possible de nous en parler plus concrètement?
Oui. La deuxième catégorie, je vous ai dit, c'est quand il y a une disposition de la loi qui le permet. Il y a plusieurs lois au Québec et même au Canada qui prévoient la levée du secret professionnel. Donc, je peux vous en donner en exemple quelques-unes. La première découle du code de déontologie. Donc, toutes les professions ont un article similaire dans leur code de déontologie. C'est de briser secret professionnel dans le but de prévenir un acte de violence envers une personne. Ça inclut le suicide. Ça peut pas être juste un vague soupçon. La jurisprudence nous indique qu'il y a trois facteurs qui devraient être pris en compte quand on considère briser le secret professionnel pour prévenir un acte de violence. Donc, il faut déterminer est-ce qu'il y a une personne ou un groupe de personnes identifiables qui sont clairement exposées à un danger? Est-ce que ces personnes-là risquent d'être gravement blessées ou d'être tuées? Et est-ce que le danger est imminent? Donc, il faut faire preuve de jugement. Quand on considère briser le secret professionnel pour cette raison-là, il faut y réfléchir. Donc, si on pense que oui, si on répond positivement à ces trois questions-là, le renseignement doit être communiqué à la personne qui est en danger, à son représentant ou aux personnes qui sont susceptibles de lui porter secours. Donc, on dévoile vraiment les renseignements, seulement les renseignements nécessaires et seulement aux personnes qui vont pouvoir intervenir de façon appropriée et sécuritaire. Fait que ça, c'est une première loi qui permet de lever le secret professionnel et c'est en fait la seule qui relève de l'ordre. Donc, quand on brise le secret professionnel pour prévenir un acte de violence, il faut avertir le bureau du syndic. Les autres lois, ce sont des lois qui relèvent de divers ministères. Alors, encore une fois, je continue avec mes exemples. Donc, les cas d'abus, de mauvais traitement ou de détresse animale. Alors, ça, c'est prévu à la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. C'est l'article 14, pour ceux que ça intéresse, qui nous dit que lorsque le médecin vétérinaire a des motifs raisonnables de croire qu'un animal domestique subit ou a subi des abus ou des mauvais traitements ou qu'il est ou a été en détresse, il doit communiquer avec le MAPAC. On a quelque chose de similaire pour les animaux sauvages en captivité, qui inclut en passant les animaux exotiques de compagnie. Donc, c'est un article similaire, l'article 23.1, mais ça relève du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, c'est à eux qu'on doit transmettre les informations. Puis dans les deux cas, les renseignements qu'on a à transmettre, c'est très similaire. Là, ça se limite habituellement aux constatations du médecin vétérinaire, au nom et à l'adresse de la personne si on la connaît, puis l'identification de l'animal. Donc, comme c'est une loi qui ne relève pas de l'ordre, on n'a pas besoin d'aviser le bureau du syndic quand on brise le secret professionnel pour ça. L'autre exemple classique, c'est les maladies à déclaration obligatoire. Donc, il y a plusieurs lois qui se rapportent aux maladies à déclaration obligatoire. Il y en a au fédéral, il y en a au provincial. Si ça concerne les animaux domestiques, ben on va communiquer ça au ministère, au MAPAC. Et si ça concerne les animaux sauvages, ben ça va être le ministère de la Faune, encore une fois. Un dernier peut-être, celui portant sur les chiens dangereux. Donc, les règlements, le nom des règlements devient de plus en plus long. Celui-ci s'appelle le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. J'espère que vous notez pas ça. Alors, le médecin vétérinaire doit signaler le fait qu'un chien, dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, a infligé une blessure par morsure. Donc, ces renseignements-là doivent également être communiqués au MAPAC. Et encore une fois, ça ne relève pas de l'ordre, donc le bureau du syndic n'a pas à être avisé. Donc, j'espère que vous n'avez pas pris tout ça en note, parce qu'en fait, c'est décrit en détail dans le guide sur la tenue d'un établissement qui est disponible sur le site Internet de l'ordre. Alors, vous allez à la section « Services à la clientèle, professionnalisme ». Vous allez trouver ça à cet endroit-là. Vous pouvez aussi utiliser l'outil de recherche dans le guide même, là, avec les mots-clés « secret professionnel » et puis vous allez arriver directement à cette section-là.
Bon, merci Daniel. Effectivement, ça fait beaucoup de choses à retenir. Hein? Donc, le mieux, c'est de garder en note le nom du guide. Ça va être plus efficace pour le jour où on va vivre une situation qui va nous embêter, puis savoir un petit peu à quelle instance se référer, là, tout dépendant évidemment de la situation qui est, si elle relève de l'ordre ou d'un ministère, là, comme expliqué. Là. Si on veut creuser un petit peu pour se remettre dans le bain, là, puis voir un petit peu comment ça s'applique concrètement tout ça, ça serait intéressant de faire des petites mises en situation pour un petit peu mieux comprendre ces concepts-là.
Ça va me faire plaisir.
Donc, je me lance avec une première petite mise en situation. Alors, disons qu'on a la Dr. Woods là, qui visite régulièrement un producteur de bovins, son client, qui discute avec lui régulièrement là, de sa santé, de la santé de sa famille. Donc, elle arrive sur place un bon matin et M. Giroir est très émotif. Donc, M. Giroir lui confie là, évidemment souffrir d'une maladie grave puis qui va peut-être bientôt devoir se départir de ses animaux. Donc, la Dr. Wood là, fait preuve d'une grande compassion sur le moment et lui offre son soutien dans cette épreuve. Elle poursuit sa tournée, elle rencontre ses autres clients, évidemment, dans sa journée de travail et informe ses clients de la situation de M. Giroir parce qu'elle se dit que ses clients vont pouvoir peut-être se porter acquéreur des animaux de M. Giroir à un prix avantageux. Bon, Daniel, maintenant, est-ce que c'est possible de savoir, Dr. Woods, est-ce qu'elle a commis un entorse au secret professionnel? Elle a communiqué de l'information, mais c'est pas sur la santé des animaux, c'est sur la santé de M. Giroir. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Bien, en fait, la réponse est oui, Patricia, parce que même si les informations transmises n'est pas liées aux animaux, mais plutôt à la santé du client de la Dr. Woods, le médecin vétérinaire doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenue dans l'exercice de sa profession. Peu importe le renseignement confidentiel, il est soumis au secret professionnel.
Ah, donc, c'est vraiment très large, hein, le secret professionnel. C'est pas juste le dossier de santé de l'animal, c'est ce qu'on comprend là, ici.
Exactement.
OK. Bon, une autre situation. Donc, Dr. Roy rencontre Mme Jensen pour une consultation pour un chien qui boite. Donc, le Dr. Roy observe plusieurs lésions traumatiques sur le chien puis qui sont à différents stades de guérison. Elle discute avec Mme Jensen puis se rend compte que son conjoint à Mme Jensen bat l'animal. Donc, la Dr. Roy décide de contacter le MAPAC puis transmet les coordonnées de Mme Jensen et son conjoint, l'identification de l'animal et ses observations. Est-ce que Dr. Roy a enfreint le secret professionnel dans cette situation-là?
Bien, en fait, la Dr. Roy a effectivement brisé le secret professionnel, sauf que c'était une des situations qui sont prévues par la loi où elle a le droit de le faire. Donc, il n'y a pas d'infraction ici parce que c'est vraiment prévu à la loi sur le bien-être et la sécurité des animaux qu'on puisse dénoncer de telles situations au MAPAC.
Merci, Daniel. Donc, ça nous éclaire un petit peu sur les situations où est-ce qu'on peut lever le secret professionnel pour la sécurité et le bien-être d'un animal. Est-ce que tu aurais un autre exemple, une situation où est-ce qu'on déroge au code de déontologie des médecins vétérinaires, par exemple?
Oui, justement, il y a une question qui revient fréquemment de la part des membres. C'est les demandes de la part de la police. Supposons qu'un policier mène une enquête sur un accident, disons, avec un délit de fuite qui s'est produit devant l'établissement vétérinaire et qui cherche à obtenir le témoignage de témoins. Donc, un policier qui se présente à la clinique vétérinaire pour demander la liste des clients qui étaient présents à ce moment-là et leurs coordonnées, en fait, même si c'est un policier, le médecin vétérinaire ne peut pas révéler ces informations-là. Par contre, le médecin vétérinaire peut proposer de contacter lui-même les clients pour savoir s'ils consentent à la communication de leurs coordonnées. Puis à ce moment-là, il peut mettre le policier en contact avec ces gens-là. Je sais que c'est difficile à imaginer. La plupart des clients n'ont rien à cacher. Mais ça arrive que même leur présence chez le vétérinaire, même une consultation avec l'animal, ce soit quelque chose qu'ils ne veulent pas que ça se sache. Plutôt faire les interventions nous-mêmes pour les mettre en contact avec le consentement du client.
Ah ben ça, c'est surprenant quand même. On aurait tendance à penser parce qu'un policier fait une demande qu'il faut y accéder, mais non, on ne peut pas déroger à notre obligation de secret professionnel, même dans cette situation-là.
Exactement. Maintenant, si on inversait les rôles, Patricia, si moi je te posais des questions, supposons, la Dr. Brown reçoit un nouveau client qui se présente avec un chat adulte de race bleue russe. Comme à l'habitude, il vérifie la présence d'une micropuce. Il en détecte une, mais constate après vérification que la puce n'est pas enregistrée au nom du client qui est devant lui. Donc, il pose des questions et finit par conclure que le chat a été volé. Alors, il essaie d'abord de convaincre son client de rendre l'animal à son propriétaire, mais il refuse. Qu'en penses-tu? Est-ce que le Dr. Brown pourrait briser le secret professionnel et contacter le vrai propriétaire ou contacter la police dans les circonstances?
C'est pas mal embêtant ça, Daniel, parce qu'évidemment, on aurait tendance à vouloir rendre l'animal à son propriétaire si on connaît son identité. Bon, je suis pas une experte, mais Si je ne me trompe pas, le secret professionnel, c'est vraiment lié au client qui se retrouve devant le médecin vétérinaire. Donc, celui qui apporte l'animal, qui amène l'animal en consultation, qui se présente finalement avec le chat volé et non envers le propriétaire de l'animal à la base. Donc, dans ce cas-là, je serais portée à dire que malheureusement, le médecin vétérinaire ne peut pas alerter les autorités ou le propriétaire véritable de l'animal. Ce qui m'embête par contre, c'est ce qui pourrait se passer si le propriétaire finit par récupérer son animal par d'autres moyens puis apprend que le médecin vétérinaire ne l'a pas informé de la situation. Alors, est-ce que le médecin vétérinaire pourrait être blâmé dans un cas comme ça?
Mais tu as tout à fait raison, Patricia. Donc, le médecin vétérinaire ne peut pas dénoncer la personne qui est devant lui. C'est cette personne-là qui est effectivement protégée par le secret professionnel. C'est exactement la même chose. C'est comme un avocat qui ne peut pas dire que son client lui a avoué avoir commis un délit. Maintenant, concernant ta question, le propriétaire de l'animal qui se sent lésé pourrait éventuellement faire un signalement au bureau du syndic de l'ordre. C'est son droit. Il a toujours le droit de faire un signalement. Par contre, le Dr Brown, en collaborant avec l'enquête du bureau du syndic, ben, va pouvoir expliquer sa version des faits. Il va pouvoir expliquer pourquoi il n'a pas agi en disant que c'était par respect pour le secret professionnel. Et à ce moment-là, ben, la conclusion du syndic serait probablement qu'il n'a pas commis de manquement aux règles déontologiques. Il y a un petit complément d'information peut-être que j'ajouterais. Ça serait tout à fait légitime qu'un médecin vétérinaire éprouve un malaise à offrir des services à un voleur présumé. Donc, je fais juste rappeler que au Code de déontologie, les articles 12 et 3 prévoient ce qui constitue un motif juste et raisonnable pour refuser de servir un client. Donc, dans le cas du Dr Brown, là, la situation pourrait justifier qu'il refuse de servir, bien sûr. Mais ça reste un client, donc il faut quand même respecter les règles. Alors, quand on décide de cesser d'agir pour un client, on doit donner un préavis raisonnable au client et prendre des mesures pour que la cessation de service lui soit le moins préjudiciable possible, même si ça peut être un peu frustrant.
Bon, mon honneur est sauf. J'avais compris un petit peu ce que tu nous avais expliqué depuis le début du balado. Je suis bien contente, Daniel. On a fait un bon tour d'horizon. On a compris c'est quoi le secret professionnel, qui est soumis au secret professionnel, puis quand est-ce qu'on peut le lever là, dans certaines circonstances dont tu nous as parlé. J'aimerais ça te laisser le mot de la fin, là, Daniel, pour nous dire un petit peu c'est quoi qui est important de retenir aujourd'hui.
Donc, je pense que le point principal à retenir, c'est que le secret professionnel, c'est un fondement du système professionnel. C'est très important parce que c'est ce qui permet d'établir et de maintenir une relation de confiance entre le médecin vétérinaire et le client. Autrement dit, ça permet à une personne de s'ouvrir complètement au professionnel dans une situation où elle a besoin d'aide pour que le professionnel, le médecin vétérinaire dans ce cas-ci, puisse disposer de toutes les informations nécessaires pour offrir les meilleurs services possibles. Donc, les situations qui permettent de lever le secret professionnel sont relativement peu nombreuses et elles sont inscrites dans les lois et règlements ainsi que dans le code de déontologie. Et puis, l'ordre vous invite vraiment à vous informer sur la notion de secret professionnel pour éviter des situations malencontreuses. Donc, notamment, comme je disais plus tôt, vous référer au guide sur la tenue d'un établissement qui est disponible sur le site de l'ordre.
Eh bien voilà, tout est dans le guide, Daniel, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, si on a des questions, on peut s'y référer n'importe quand. C'est disponible sur la zone membre du site web de l'Ordre. Là. Donc, on fait une petite recherche et le tour est joué, on peut trouver ce qu'on cherche. Donc, merci beaucoup, Daniel, d'avoir accepté de nous entretenir sur ce sujet qui est très important, évidemment, comme on a appris au début du balado, pour finalement offrir le meilleur service possible en toute confidentialité.
Merci Patricia, puis salutations aux médecins vétérinaires qui sont à l'écoute.
L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec remercie La Personnelle, assurance de groupe auto, habitation et entreprise, commanditaire de ce balado.